Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les médiations françaises sur le dossier libyen. Mardi prochain, Emmanuel Macron présidera à Paris une conférence internationale. Nous en décrypterons les enjeux. Également au sommaire à Berlin, les contre-manifestations, un rassemblement de l'AFD, le premier tour de la présidentielle colombienne, la face cachée du globe qui nous emmène cette semaine au Pérou et à Madagascar. Et enfin, un hommage à Pierre Bellemare, le conteur, animateur et écrivain, est décédé à l'âge de 88 ans. Les autorités françaises travaillent depuis des mois à une sortie de crise en Libye. Le terme « crise » est impropre. Quantité d'experts lui préfèrent guerre civile dans un pays morcelé et en apnée depuis 2011. C'est le président de la République qui est à pied d'œuvre. Emmanuel Macron va réunir mardi, sous l'égide de l'ONU, les principaux responsables libyens, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, les présidents de la Chambre des représentants et du Conseil d'État, le maréchal Haftar qui règne sur la Cyrénaïque à l'Est et, car il s'agit d'une conférence internationale, les représentants de 19 pays impliqués dans le dossier. Benjamin Delisle a demandé à Kader Abderrahim de décrypter les initiatives françaises.
Au moins, le président de la République, il a de la constance parce que déjà l'an dernier, il avait fait une tentative pour favoriser le dialogue interlibyen, même si ça avait été un échec, c'était une tentative méritoire. Cette année, malheureusement, je pense que ce sera plus compliqué encore parce que la situation s'est détériorée. D'abord, il y a les problèmes de santé du maréchal Haftar qui aiguisent les appétits. Il y a la division qui, non seulement ne s'est pas résorbée, mais elle s'est accrue interlibyenne. Et enfin, de mon point de vue, aujourd'hui, la question en Libye n'est plus la question du terrorisme. Ce sont des groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, qui ont été vaincus en Libye, même s'ils subsistent de manière groupusculaire. Mais c'est la mise en coupe réglée par des groupes criminels de la Libye. Et je crois que comme cela vient soit des tribus, soit des milices, soit de la société, ce sera beaucoup plus difficile à combattre dans un pays qui est très divisé et dans lequel l'État est totalement inexistant.
Kader Abderrahim, politologue et spécialiste à Sciences Po, Paris. La Libye, dont les côtes happent des milliers de ressortissants, érythréens, somaliens ou encore éthiopiens, prêts à traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune. Hier, une centaine d'entre eux ont pu fuir d'un camp où ils étaient détenus et torturés par des trafiquants dans la ville de Bani Walid, dans l'ouest libyen. Ces trafiquants ont ouvert le feu, 15 morts et 25 blessés, selon Médecins Sans Frontières. Plus d'un million de réfugiés ont trouvé un port d'attache. L'Allemagne. Angela Merkel a fait le choix de les accueillir, moyennant joutes et rixes politiques avec avant tout Alternative für Deutschland, fondée en 2013, l'extrême droite qui instrumentalise à outrance l'accueil de ces réfugiés. L'AFD organise aujourd'hui une marche à Berlin et des collectifs antifascistes ont imaginé une contre-manifestation sonore. La rue donne de la voix quand les partis traditionnels choisissent, eux, de ne pas alimenter la rhétorique de l'AFD. C'est une correspondance de Berlin de Nathalie Versieux.
L'AFD a dû revoir à la baisse le nombre de ses participants. Le parti qui avait annoncé 10 000 supporters dans les rues de Berlin ce dimanche disait hier ne plus attendre que 2 500 à 5 000 personnes. Beaucoup de sympathisants, affirme le parti, n'oseraient s'afficher dans une manifestation de l'AFD par crainte de représailles au travail ou dans leur entourage. Dans les faits, l'AFD est toujours divisée entre une aile droite radicale et un courant d'inspiration libérale proche des patrons de PME. L'AFD a d'autre part du mal à faire entendre son discours, alors qu'à la veille des élections régionales de Bavière, à l'automne, l'ensemble des partis politiques traditionnels semble éviter l'affrontement qui avait tant profité à l'AFD au cours de la campagne en vue des élections législatives de septembre dernier. La grande manifestation de Berlin pourrait donc tourner au flop pour le parti d'extrême droite, d'autant que 13 contre-manifestations ont été déclarées qui pourraient mobiliser jusqu'à 30 000 personnes. 20 000 rêveurs sont notamment attendus par un collectif de 70 clubs techno de la ville décidés à couvrir les paroles de l'AFD de leurs décibels.
Quatre soldats russes tués lors d'affrontements avec des effectifs dits rebelles dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Information livrée par le ministère russe de la Défense. À l'instant, une autre source livre un autre bilan. 9 soldats russes tués ainsi que 35 combattants pro-régime. Premier tour aujourd'hui des élections présidentielles en Colombie, un an et demi après la signature de l'accord de paix et un demi-siècle de guérilla. Le favori du scrutin et candidat de la droite, Iván Duque, envisage pourtant de remanier l'accord. Le candidat de gauche, Gustavo Petro, ex-guerrillero qui a milité dans sa jeunesse dans un groupe d'inspiration marxiste, concentre lui son argumentaire sur l'économie et la redistribution des richesses. Dans quel environnement économique, justement, survivent les anciens guérilleros des FARC ? Rebecca Gil, vous vous êtes rendue dans l'une des 26 zonas verdes du pays, dans la région du Cauca, une des zones où les ex-FARC sont censés, justement, se réintégrer dans la vie civile.
Ils étaient près de 300 au départ dans cette zone de Monterrerondo. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une soixantaine à peine, comme une sorte de village fantôme, des maisons abandonnées, des chiens errants, seulement une petite épicerie à l'entrée qui donne un peu de vie. Assis au bord de la route, Richard Jiménez semble attendre sans trop savoir quoi.
On ne sait pas quel futur nous réserve ce processus de paix. Regardez comment nous vivons. La communauté internationale et le monde entier pensent qu'on vit bien. Mais c'est un mensonge, on n'a rien, pas de terre. Rien, la seule chose qu'ils nous donnent, c'est 90% d'un salaire. Mais c'est une demi-aide à peine.
Ce que ce Vénézuélien de 40 ans attend en réalité, c'est le résultat de l'élection. Il a passé 14 ans en prison et son pire cauchemar, c'est d'y retourner.
On sait que si l'héritier d'Uribe passe, la guerre va peut-être reprendre. Alors on attend de voir ce qui va se passer.
Un peu plus loin, Giovanni Castro, ex-commandant du front de Tolima, sort de sa chambre. Ce petit homme d'une quarantaine d'années a dirigé 300 guérilleros pendant quasiment 20 ans et il ne mâche pas ses mots.
On se sent lésé, on souffre de la débandade. Depuis le désarmement, chacun pense à soi et le gouvernement n'a rien accompli. Il devait y avoir de soi-disant projets productifs, mais il n'y en a eu aucun. On n'a pas de terre, rien de rien. Hier, on a enterré le 56e ex-combattant assassiné depuis qu'on a déposé les armes pour y avoir cru.
Et malgré les affiches de Petro collées un peu partout sur les murs du village, Giovanni a peu d'illusions.
Petro se dit ancien révolutionnaire. Il a fait partie d'une guérilla. Mais aujourd'hui, il a de l'argent, un statut. Les gens s'illusionnent avec Petro.
On sent chez lui beaucoup d'amertume.
Je ne vois aucun futur. Je n'attends rien. Si ce n'est qu'il me tue, qu'il me mette en prison. Qu'est-ce que je peux attendre d'autre ? On ne demande qu'une maison, ce n'est pas grand-chose. Pas une prison.
Veronica fait partie de ceux qui ont préféré éviter de se déclarer comme ex-guerrieros. La jeune femme travaille au champ, officiellement comme paysanne.
J'ai deux fils qui étudient, je ne veux pas leur faire de tort. Pour l'instant, on n'a rien vu des promesses qu'on nous avait faites. Comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance ?
Comme beaucoup, elle aimerait de nouveau habiter avec ses enfants, mais elle en connaît les risques. Alors comme les autres, elle patiente. Et si certains pensent à reprendre les armes si la situation n'évolue pas, elle se permet de rêver. Pourquoi pas un jour étudier les sciences politiques, en attendant de voir ce que lui réservera le prochain président.
Reportage en Colombie, signé Rebecca Gil. Retour en France, un rapport d'enquête administrative après l'expédition punitive de mars dernier contre les occupants d'un amphithéâtre de l'université de Montpellier recommande, je cite, une procédure disciplinaire à l'encontre du doyen de la faculté de droit Philippe Pétel. Notre modèle social ne fonctionne pas bien. Il est temps de se poser calmement la question du sens et de l'efficacité des politiques publiques. Tout est dans le calmement. Le Premier ministre Édouard Philippe siffle la fin de la récréation au terme d'une semaine de propos dissonants au sein du gouvernement s'agissant du montant des aides sociales. Il est 12h et un peu plus de 38 minutes, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Des passeurs les retenaient en captivité à Beni Walid, à 150 km au sud-est de Tripoli. Plus d'une centaine de migrants originaires d'Afrique de l'Est ont réussi à échapper mercredi à leur geôlier, Médecins sans frontières. L'organisation humanitaire affirme voir soigner 25 migrants qui présentaient des blessures par balles et des fractures multiples. Le Burkina Faso a annoncé jeudi la rupture de ses relations avec Taïwan et s'est rapproché de la Chine avec qui il avait suspendu sa coopération en 1993. L'évolution du monde, les défis socio-économiques actuels de notre pays et de notre région nous recommandent de reconsidérer notre position, explique-t-on officiellement à Ouagadougou. Plusieurs pays de la région, dont le Tchad et le Sénégal, ont depuis l'année 2000 rompu leurs relations avec l'île afin de bénéficier de la coopération avec Pékin. La présence de la Chine en Afrique n'explique pas tout, puisqu'en mars dernier, un pays non-africain, la République dominicaine, a rompu avec Taipei. Cette double rupture a conduit à la démission du ministre des Affaires étrangères de Taïwan. Va-t-on vers la fin de la crise politique qui secoue Madagascar depuis un mois? Face à la mobilisation de l'opposition qui accuse le président de vouloir la museler avant les prochaines élections générales, la Haute Cour constitutionnelle, HCC, a ordonné vendredi la formation d'un gouvernement de coalition. Chaque clan politique a du coup réuni hier ses partisans pour discuter de cette décision. C'est un reportage sur place de Laure Verneau.
Les partisans d'Air Razunarmampian se sont retrouvés au Coliseum d'Antsounzumbe. Environ 10 000 personnes se sont rendues au premier rassemblement organisé par le régime depuis un mois. Et dans ce stade, qui compte près de 40 000 places, se sont succédés concerts et courtes allocutions politiques. La décision de la HCC est une victoire en demi-teinte pour les députés de la majorité, mais Freddy Mazoise préfère se concentrer sur les échéances à venir.
Dire que nous sommes satisfaits à 100%, ça me paraît difficile. Il s'agit quand même d'aller dans le sens du consensus et de l'apaisement. Donc il faut faire des concessions des deux côtés. Mais aujourd'hui, nous nous sentons parfaitement en mesure, dans le groupe des députés majoritaires, au nombre de 79, de nommer le Premier ministre du futur gouvernement.
Le député fait référence à l'article 54 de la Constitution qui prévoit que le chef de l'État choisit un Premier ministre issu du parti ou du groupe de partis majoritaire à l'Assemblée. À quelques kilomètres de là, la place du 13 mai est noire de monde. La foule est venue applaudir les députés de l'opposition en conclave dans l'hôtel de ville. S'ils n'ont pas encore décidé de leur feuille de route, ils pensent que la HCC n'est pas allée assez loin dans sa décision. C'est le cas de la députée Lydia Raansou du parti Team.
La HCC a dit oui, c'est vrai que il a dérapé par rapport à la Constitution. S'il a dérapé, la déchéance doit s'en suivre. Qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est le gouvernement qui tombe.
On ne sait pas encore comment les partis vont interpréter l'accord politique qu'ils doivent trouver d'ici 10 jours, ainsi que l'a ordonné la HCC.
L'Amazonie, c'est 20% de l'oxygène que nous respirons, mais c'est aussi une forêt tropicale menacée par la déforestation. Au Pérou, le Service national des zones protégées a reçu l'aide de plusieurs ONG pour lutter contre le trafic de bois précieux. Et Eric Sanson, c'est une lutte plus efficace désormais puisqu'elle fait appel aux techniques les plus modernes.
En novembre dernier, un homme a été surpris en train de couper des arbres illégalement dans la forêt protégée de l'Alto Mayo. Surpris par la grande quantité de grumes qu'il voyait quitter sa propriété, des habitants d'une communauté voisine ont alerté les gardes-parcs. Problème, le terrain suspect se trouvait de l'autre côté de la rivière Mayo, large et au courant dangereux. C'est là que la technologie est intervenue. Grâce à l'aide de l'ONG Conservation International Peru, des gardes-parcs ont été entraînés au pilotage de drones. Les images prises ont confirmé des activités, non seulement de trafic de bois précieux, mais également d'exploitation minière illégale. Le propriétaire de la hacienda attend aujourd'hui sa condamnation. Un usage de la technologie dont Pedro Gamboa, le chef du service national des zones protégées, se félicite.
Nous utilisons de plus en plus la technologie. Nous venons de passer un accord pour disposer d'images satellitales, par exemple. Pour lutter contre la déforestation, nous utilisons des drones. Nous améliorons toujours plus nos activités de contrôle et de vigilance.
Pour augmenter l'efficacité des drones, des indigènes de la communauté locale ont également été entraînés à les piloter, car les gardes-parcs ne sont pas toujours présents. Conservation International a également installé des senseurs acoustiques pour détecter les scies électriques avant le déploiement des drones. Ces engins, chaque fois plus petits mais plus puissants et à l'autonomie accrue, permettent d'espérer une lutte plus efficace contre la déforestation qui a déjà diminué de 13% l'an dernier au Pérou par rapport à 2016.
Tout artiste a la terre ou son imagination pour inspirer ses peintures. Moi, j'ai la terre mais aussi la lune. Ces propos sont d'Alan Bean, le quatrième homme à avoir marché sur la lune en 1969 pour la mission Apollo 12. L'astronaute qui est devenu peintre à sa retraite en 1981 est mort aujourd'hui à Houston au Texas. Il avait 86 ans. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Hamel. Refermons cette édition avec la disparition d'un pilier de la radio et de la télévision moderne, Pierre Bellemare. Impeccable conteur est mort à l'âge de 88 ans. Figure d'Europe 1, du téléachat, plein d'humour et d'autodérision. L'équipe de l'émission Groland avait d'ailleurs fait appel à lui en décembre dernier pour un zapoy, une variation du zapping dédiée cette fois aux 25 ans de l'émission de Canal+. Vous allez l'entendre, Pierre Bellemare revisite au micro de Michael Kull l'histoire politique française.
Eh bien oui, effectivement Michael, aujourd'hui, on connaît tous la France arrogante, sûre d'elle-même, mais il faut s'imaginer qu'il y a une période de l'histoire où les Français avaient un système politique assez délirant. Alors jugez plutôt. Il était composé d'une droite qui était issu de la démocratie chrétienne, d'un parti socialiste fort né d'une alliance avec le Parti communiste, lui-même toujours vivace, mais aussi de centristes, d'écologistes, d'extrémistes de droite comme de gauche. Et puis alors des journalistes, des intellectuels, des humoristes, tous engagés, qui eux-mêmes se définissaient comme de droite ou de gauche.
C'est fou ça. Mais c'était quand ?
Ben écoutez, c'était quand, si je cherche bien, ça remonte à un an.
Mais maintenant que vous le dites, je me souviens, mais c'était avant la bombe à Macron.
C'est ça. Et après, boum, plus rien, tous disparus.
C'est dingue comme le temps passe pas vite. Merci Pierre.
Oh, vous savez, si je peux aider...
Voilà la voix de Pierre Bellemare qui nous a quittés à l'âge de 88 ans. La météo de l'après-midi, instable sur l'ensemble du pays. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux à la technique Clément Daté.